Radio Okapi.
Belinda Bosuma à la présentation de votre journal.
La peur, l'anxiété, c'est le sentiment qui envahit actuellement la population de Goma après les violents affrontements de la semaine dernière. Sentiment exacerbé par certaines publications en ligne, constate un notable sur place. Entre-temps, les agriculteurs de Niragongo alertent sur la présence des corps en décomposition sur les routes et dans les champs. SOS à la Croix-Rouge et aux humanitaires. Dans ce journal, nous ferons un tour vers les rocades de Kinshasa, la capitale. Le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, a visité les lieux hier samedi. Il tenait à évaluer l'avancement de ce projet. Et puis, l'invité de ce midi, Maître Okanju Okonge Flori, secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports, des transits du corridor central. Il nous parle de ce projet intégrateur du chemin de fer Tanzanie, Burundi et RDC avec Kindu comme terminus. Madame, Messieurs, bonjour. Le petit nord du Nord Kivu a été le théâtre des violents affrontements entre le 27 janvier et le 1er février 2025. C'est notamment autour de Goma, affrontement opposant les FARDC aux rebelles du M23. Bien que les combats aient cessé, la population locale demeure profondément marquée par les événements. La peur et l'anxiété persistent, exacerbées par certaines publications en ligne. Nombreux sont ceux qui tentent de reprendre une vie normale, mais les stigmates du conflit restent omniprésent, constat d'un notable sur place, Chris Mukandmatand nous fait le point.
L'alerte est donnée par un notable qui a pris le temps d'observer. Et après avoir fait le tour de la ville de Goma, il a produit ce vendredi un pamphlet intitulé « Appel citoyen à tous les internautes congolais au pays et dans la diaspora ». En ce moment précis où des processus sont engagés à différents niveaux pour trouver une solution aux problèmes sécuritaires dans la partie orientale du pays, il est recommandé de ne pas divulguer des informations qui traumatisent davantage notre population. Certaines informations stressantes peuvent créer des maladies et conduire à la mort. C'est en ce terme que l'auteur ouvre son billet. La population des Goma a, en revanche, besoin de se remettre et d'avoir de l'espoir. Pour cela, l'auteur encourage de propos des publications qui développent en elle un sentiment de confiance qui la rassure quant à l'issue heureuse de tous les processus, dont celui de Luanda et celui de Nairobi. Ne donnez de l'information que si c'est nécessaire et s'il le faudrait. Cessons et arrêtons, je nous en prie, avec des publications nocives, destructrices et de nature à créer de la haine, de la division et à perpétuer les conflits, conclut le notable.
Par ailleurs, les agriculteurs du territoire de Niragongo déclarent ne pas pouvoir accéder à leurs champs en raison de la présence des corps en décomposition sur les routes et dans les champs. Cette situation représente une grave menace pour la santé publique, alerte plusieurs acteurs locaux. Ces derniers ont contacté Radio Okapi hier samedi pour demander à la Croix-Rouge et aux humanitaires d'intervenir de toute urgence afin d'évacuer ces corps et d'assainir la zone. Sifa Maguru nous en parle.
Les faits s'observaient plus dans différents villages et groupements Kibati, Buvira et Rusayu. Alors que la population tente d'accéder aux champs à la recherche de la nourriture, profitant de cette accalmie relative qui s'observe depuis l'occupation, celle-ci se heurte à cette difficulté. D'après nos sources, des affrontements intenses à l'armée lourde ont été enregistrés dans ces villages avant l'entrée des rebelles dans la ville de Goma, ce qui justifie la présence de plusieurs cadavres des militaires et civils confondus qui traînent encore çà et là et qui fait craindre des risques des épidémies. En outre, notre source évoque la crainte d'engins non explosés, mais aussi des armes abandonnées qui sont visibles dans plusieurs villages. L'urgence s'impose pour que des interventions de déminage et d'assainissement soient organisées en territoire de Niragongo en général, précisent nos sources.
Nord Kivu toujours. Dans la ville de Beni, la délégation de la société civile du Congo, antenne de Butembo, a échangé jeudi avec l'autorité urbaine sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ces deux villes en particulier et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en général. Pour le président de cette structure citoyenne à Butembo, les efforts doivent être conjugués ensemble entre la population, les autorités et les services de sécurité pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène la province et surtout les villes de Beni et de Butembo. Dieu merci Katembo, président de la société civile du Congo à Butembo, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes venus juste pour échanger avec le maire par rapport à ce qui se passe à Ville de Beni, mais aussi au Nord Kivu en général. Ce qui était l'objet dans notre échange, c'était juste la sécurité. Et nous sommes en train de voir ensemble avec les autorités si comment on va lutter contre les propagandes mensongères de l'ennemi, mais aussi voir comment on va lutter contre la sécurité au Nord Kivu. La SOSICO a déjà commencé la sensibilisation contre la désinformation au Nord Kivu. Donc nous sommes en train de sensibiliser la population de ne pas chaque fois faire la publicité des ennemis, mais à part ça aussi, nous sommes en train de demander et sensibiliser les jeunes d'accompagner l'armée, parce que quand les jeunes accepte d'accompagner l'armée, on peut trouver une solution durable. Un message clé, c'est demander à toute la population d'accompagner en fait le service de sécurité. Donc nous tous, nous sommes censés de lutter contre les sécurités urbaines. Pas seulement urbaines, mais aussi les jeunes qui sont capables de venir défendre notre pays, ils sont les bienvenus, parce que l'armée elle-même ne peut pas réussir. Il faut l'accompagnement.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, a organisé hier samedi une visite d'inspection sur le projet des rocades de Kinshasa en compagnie de toutes les structures impliquées. Alexis Guissaro tenait à évaluer l'avancement de ce projet. Sur place, il a notamment constaté le besoin urgent de procéder aux expropriations dans la partie urbaine du projet. Reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Sur la rocade sud-est qui va de Kartenzoku, commune de Lantélé, à celui de Mitendi, commune de Mongafula, le ministre des ITPR, avec sa suite composée de toutes les structures de son secteur, dont l'Agence congolaise des grands travaux, a fait le constat de l'immense travail réalisé quant au drainage des eaux d'un côté à l'autre de la route. 4 batteries de buses et 7 dallos sont en cours de finalisation, alors que le travail de la chaussée est buté à l'occupation du tracé par des propriétés à exproprier. Ces tronçons qui longent la cité Millennium a reçu sa couche de base en concassé de granulométrie. 1 kilomètre plus bas, une stabilisation des talus a été pratiquée, des bordures ancrées dans la couche de fondation et des trottoirs aménagés. Alexis Guissaro a salué les avancées des travaux de ces routes périphériques.
Les assainissements ont été faits pour nous assurer que les eaux sont évacuées correctement et que toutes les problématiques d'érosion sont également prises en charge en construisant, comme vous pouvez voir, des talus ainsi que d'autres ouvrages tels que les caniveaux de crête.
La principale contrainte pour le bouclage de ces projets à fin 2026 reste la réalisation des expropriations afin de trouver l'emprise nécessaire. C'est ainsi qu'une large commission d'expropriation travaille justement à cette tâche.
Direction la province du Haut-Katanga. La prison de haute sécurité de Boulouo dans la commune de Chitourou à Likasi est en pleine réhabilitation. Les travaux sont financés par le gouvernement provincial. Le maire de Likasi s'y est rendu vendredi pour se rendre compte de la fin de la première phase. Jean Gandou, reportage.
La première phase de travaux a pris fin ce vendredi. Elle a consisté à la réhabilitation de la toiture de toutes les cellules endommagées par la pluie le 6 janvier dernier, comme l'atteste le responsable de la division provinciale des infrastructures et aménagements du territoire.
Les travaux consistent en remplacement de la toiture et aussi réhabiliter les circuits électriques. Il y aura aussi le rafraîchissement de la peinture qui va suivre. Jusque là, on a fait une première phase qui a consisté à remplacer la toiture sur la première aile. J'ai fait le rapport au chef. Il a accordé que la semaine prochaine, qu'on commence avec l'autre aile. Dès qu'on aura fini avec les cellules carcérales, à ce moment-là, on va attaquer avec le bureau administratif de manière à ce que la réhabilitation soit faite de manière complète.
L'objectif est donc d'humaniser les conditions de détention et de renforcer aussi les mesures de sécurité. À noter que dans cette prison se trouvent aussi d'autres pavillons dont les travaux de réhabilitation ont longtemps commencé mais qui ne sont jamais arrivés à terme. Jusque ce vendredi, la prison de haute sécurité de Boulouo comptait plus de 500 pensionnaires venus de plusieurs coins du pays. Parmi eux, se considéraient comme étant les plus dangereux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Lutte contre l'insalubrité dans la commune de Basoko à Bandunduville, chef-lieu du Kwilu. Fini la sensibilisation, place à présent aux sanctions pour ceux qui ne maintiennent pas leur environnement propre. Ce message est de la bourgmestre de Basoko, Kasilda Kikongo, lancé jeudi. Selon elle, des équipes vont patrouiller pour contrôler et coller des amendes aux contrevenants. L'objectif est de rendre cette commune salubre afin de prévenir certaines maladies. La bourgmestre de la commune de Basoko s'exprime au micro de Irène Boma.
Nous avons décrété la journée de samedi comme journée réservée pour les salongos obligatoirement sur toute l'étendue de notre juridiction et nous avons eu à sensibiliser presque tous les quartiers et la période réservée pour la sensibilisation étant largement dépassée, nous voulons passer à l'acte, c'est-à-dire toutes les parcelles privées et publiques, les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les églises, là où on va trouver l'insalubrité, nous allons taxer les amendes et cet argent-là déverser cela dans les trésors publics pour nous permettre d'acheter les outils de travail et de payer les autres personnes qui pouvaient faire ces services-là, de rendre l'environnement salubre. Toutes les parcelles devant ou dedans malpropres, les tuyaux de canalisation, de douches ou de toilettes donnant sur l'avenue, les avenues avec des poubelles seront à charge des parcelles constituant cette avenue-là. Toutes les bêtes en divagation seront prises. La propreté, c'est une vertu et quand on est propre, on chasse des maladies loin de nous. Nous visons vraiment une commune de Bassoko propre car notre bonne santé en dépend.
Pour un Congo meilleur dans l'avenir, la République démocratique du Congo a besoin des citoyens nouveaux dans le secteur éducatif. Déclaration de l'inspecteur principal de la province éducationnelle Congo Central 1, Jean-Pierre Kokombo, était devant les enseignants et finalistes du secondaire du lycée Vuvuketo de la ville de Matadi. Selon lui, cette activité s'inscrit dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur le respect du plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale. Le point avec Nana Plurich Mambo.
Un Congo meilleur dans l'avenir nécessite l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des citoyens nouveaux. L'IPP du Congo central 1 l'a souligné dans son message aux enseignants et à plus d'une centaine d'élèves finalistes du secondaire du lycée Vuvuketo. Jean-Pierre Kokombo.
Le gouvernement a besoin de citoyens nouveaux. C'est pourquoi la dénomination du ministère même a changé. Nouvelle citoyenneté, un type nouveau. Nouveau, c'est-à-dire qui n'est pas prêt à accepter les antivaleurs. Pour que même si nous, les aînés, nous avions échoué, eh bien, que nos enfants puissent faire l'honneur de ce pays.
Pour mieux évaluer les niveaux des élèves, ces derniers exhortent les enseignants de composer les épreuves sur base des matières dispensées.
Qu'on ne distribue pas de points gratuits aux élèves, qu'on ne fasse pas des E13 erronés, mais que chacun fasse un travail de qualité. Donc, évaluer signifie amener les élèves à appliquer ce que le professeur leur a appris pendant les heures de cours.
Pour une relève conséquente, l'inspecteur principal provincial Jean-Pierre Kokombo appelle les apprenants à travailler d'arrache-pied.
La part des élèves, nous venons les sensibiliser qu'ils soient disciplinés d'abord. Parce que nous cherchons à former des patriotes. Nous ne cherchons pas à former des enfants qui vont signer un contrat contre leur pays. Ils doivent être assidus dans le travail.
Matadi, Nana Purish Mambu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la ville de Kisangani est privée d'électricité depuis ce matin de dimanche. En cause, une panne survenue au groupe numéro 2 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. C'est l'unique groupe opérationnel sur les trois que compte cette centrale, les deux autres étant en panne depuis bien longtemps. Selon le chef de division de production et transport de la SNEL Tchopo, seuls les sites stratégiques seront alimentés en énergie électrique issue des groupes électrogènes. D'après Jean-Claude Lianja, les travaux vont durer 5 jours, soit du dimanche 9 aujourd'hui donc, jusqu'au jeudi 13 février courant. Néanmoins, précise-t-il, toutes les dispositions sont prises pour réduire ce délai au strict minimum. Jean-Claude Lianja explique dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
Le groupe numéro 2 a un problème de percement d'un radiateur que nous appelons ici réfrigérant, qui refroidit l'huile qui alimente la pivoterie et le palier supérieur de la machine. Cet organe-là, quand ça perce, parce que cet organe-là baigne dans l'huile, l'eau circule à l'intérieur de cet organe qui baigne dans l'huile pour refroidir l'huile qui s'échauffe à cause des frottements métal-métal, tout ça. Et quand cet organe-là se perce, l'eau qui circule à l'intérieur entre dans le bain d'huile. Et c'est très mauvais pour les endroits de surface où il y a un système de lubrification. Là où il y a frottement, dans cette surface-là, il y a un film d'huile qui pénètre dedans pour créer une lubrification. Mais cette huile-là doit être propre pour un meilleur glissement. Si cette huile-là est polluée, c'est-à-dire que si ça contient de l'eau, ça peut créer un mauvais frottement et quand ça grippe, c'est une longue indisponibilité. Et ça, c'est ce que nous voulons éviter.
Actualité internationale. Au lendemain d'un cinquième échange entre otages et détenus palestiniens, l'armée israélienne a totalement évacué ce dimanche le corridor de Netzarim, situé dans la bande de Gaza. C'est dans les cadres de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Sur le front diplomatique, l'Égypte annonce qu'elle organiserait le 27 février un sommet des pays arabes après l'annonce par Donald Trump d'un plan visant à placer l'enclave sous contrôle américain. Et puis cette triste nouvelle, Sam Nujoma, ancien président et père de l'indépendance en Namibie, n'est plus leader du SWAPO, le mouvement de libération qu'il avait cofondé et héros de l'indépendance vis-à-vis de l'Afrique du Sud. L'ancien président namibien, Sam Nujoma, est décédé samedi à l'âge de 95 ans, premier président de la Namibie et une figure historique des indépendances africaines. Sam Nujoma tire sa révérence, annonce ce dimanche la présidence de ce pays qu'il a dirigé jusqu'en 2005.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Maître Okanjo Okonge-Flory. Il est le secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports de transit du corridor central. Il nous parle de ce projet intégrateur du chemin de fer Tanzanie-Burundi et RDC avec Kindu comme terminus. Maître Okanjo s'entretient avec Florence Kizalunga.
Maître Okanjo Okonge-Flory, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
C'est quoi ce projet générateur du chemin de fer Tanzanie, Burundi et RDC avec Kindu comme terminus?
Alors c'est un projet tripartite pour trois pays, la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo avec Kindu comme terminus. C'est un projet de chemin de fer électrifié à écartement standard. Écartement standard, c'est-à-dire un écartement qui est internationalement reconnu, que nous sommes en train de développer évidemment. Nous assurons la coordination, mais ce sont les pays qui développent ces projets-là, donc les gouvernements de ces trois pays, et que l'objectif final, c'est d'accroître l'économie de nos pays, de désenclaver l'Est de la République démocratique du Congo, parce que vous savez qu'elle n'a pas accès direct à l'océan, et que l'Est utilise plus les ports de Dar es Salaam pour ses importations et l'exportation vers la Chine, la Turquie et d'autres pays. Donc c'est ça le projet que nous sommes en train de développer, et pour le moment nous sommes contents de voir le développement en cours, et nous croyons que les que nous avons pour le moment, ça va continuer à faire que ce projet voie jour.
C'est dans quelles circonstances que ce projet a été né? Parce que avec le chemin de fer, je pense que c'est un projet à long terme.
Oui, justement, c'est un projet à long terme. Évidemment, quand on gère les pays, on les gère non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Donc, c'est un projet qui est à moyen et à long terme. Parce que ce projet, une fois dans la section, évidemment, comprise entre le Burundi et la République démocratique du Congo, nous sommes dans la phase des études de faisabilité. Une fois que les études sont terminées, et si nous passons à la phase de construction, je pense que 3, 4 ans, 5 ans maximum, on peut être à mesure de voir ce train arriver jusqu'à Kindu. Donc je dirais que c'est à moyen et à long terme. Alors le contexte de sa naissance, c'est que c'est le souci de désenclaver l'Est de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Ce projet va quitter Dar es Salaam, Gitega au Burundi, passer par Musongati, Bujumbura ça traverse Uvira ça va arriver jusqu'à Kindu. Et donc c'est dans ce souci là, de faciliter les transports de marchandises et de personnes de manière rapide, sans beaucoup de barrières tarifaires et non tarifaires, que les États se sont convenus de développer ce projet. Voilà, c'est ça le contexte. Donc, le souci, c'est rendre rapide les transports, n'est-ce pas, des passagers et de leurs biens le long de ces corridors, afin de les rendre compétitifs, mais aussi afin de favoriser que la population ait accès aux biens et services à un coût réduit.
Bien sûr que vous voulez faciliter les opérateurs économiques. Ces projets en question, vous êtes à quel niveau?
Alors présentement, ça dépend des sections. Du côté de la Tanzanie, par exemple, dans les territoires tanzaniens, le projet est en cours de développement, mais les trains circulent déjà. Vous pouvez quitter Dar es Salaam jusqu'à Dodoma, c'est 450 km. Là, vous prenez votre train à grande vitesse. Là, le train est déjà en marche, mais la construction continue pour arriver au niveau de la région de Kigoma. Maintenant, dans la section qui devra couvrir la région de Kigoma en Tanzanie et la région de Musongati au Burundi, le contrat de construction de la voie a été signé le 29 janvier 2025 et que bientôt la construction va devoir commencer. Donc, le contractant est à la phase de déploiement ou d'installation du chantier. Maintenant, dans la section reliant le Burundi à partir de Musongati, Gitega, la capitale du Burundi, descendant à Bujumbura pour rentrer en RDC et arriver jusqu'à Kindu, là, les études de faisabilité sont en cours. Et les études ont commencé depuis le mois de mai 2023 et nous espérons les terminé en avril 2025. Bien entendu, il pourrait y avoir une extension des délais de livraison du rapport final, étant donné les retards que nous avons accumulés après la signature du contrat, parce qu'il faut fallait payer les factures du consultant.
Avec tout ça, vous avez les financements des partenaires ou bien ce sont le pays membre qui finance tous ces travaux?
Alors, bien entendu que l'argent vient des partenaires techniques et financiers, mais ça sera toujours remboursé par les gouvernements. Donc, en définitive, je dirais que ce sont les gouvernements des trois pays qui sont en train de construire avec l'argent. Cet argent, ça peut provenir des fonds, des trésors publics directement, tout comme aussi ça peut provenir des grants, c'est-à-dire des dons, tout comme aussi ça peut provenir des prêts. C'est-à-dire que les États peuvent signer les accords de prêts avec la BAD. Et ici, le principal bailleur de fonds pour ce projet, c'est la Banque africaine de développement. Donc, en définitive, ce sont les gouvernements qui financent par divers mécanismes, à savoir les dons provenant des bailleurs de fonds, tout comme aussi les crédits provenant spécialement de la BAD.
Maître Okandjo Okonge, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kizalunga.
Voilà, c'est par ici que s'achève ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda, d'Eps Vita à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix à partir de 13h et trouver patience Ngalula pour la suite.